Chapitre 9. Monsieur le maire de Montpezat avait trouvé, pour Adrien, une place de travailleur dans une ferme au village que celui-ci ambitionnait, à Castelnau de Montratier. Adrien devait partir le 1er décembre, dans 10 jours. Une semaine s'était écoulée depuis le dimanche où, là-haut, au moulin d'Agry, Fine et lui avaient, en manière de serment, échangé des caresses et des baisers. À présent, ils se rencontraient le soir, en cachette, un peu loin de leur famille. C'était de l'autre côté du ruisseau, pour Fine, au fond d'un creux bordé de buissons. De l'herbe en tas, flétrie, s'allongeait dans ce nid. Les amoureux, blottis l'un contre l'autre, s'y réchauffaient voluptueusement dans les ténèbres froides. D'une semaine, on n'avait pas revu la pluie. Un vent de bourrasque, qui cassait les branches mortes et roulait dans les fossés les dernières feuilles, avait tassé le sol comme un lit de planches. Adrien et Fine se félicitaient, chaque soir, d'avoir su choisir leur nid de broussailles. Ils pouvaient, aisément étendus, vivre ensemble de leurs rêves. Hors de ce trou, rien n'existait plus pour eux, dans le silence où murmurait, si petit, le ruisseau. Ils pouvaient se croire riches. Leur cœur se sentant si proche, ils répétaient sans cesse les mêmes mots d'espérance et de promesse. « Tu seras sage, Adrien, à Montratier ? Puisque tu n'y seras, je travaillerai, pardi. Autrement, si une héritière de par là-bas t'en veut à cause de ton argent, je viendrai te prendre. Ah, si ton père acceptait ? Mon père acceptera tout. Non, car je veux dire que tu viendrais avec moi à Montratier, et comme ça, je ne risquerai guère, auprès de toi, d'apprendre le langage d'une autre faraude et de me parfumer d'un autre corps que le tien. Va, tu emporteras assez de mon odeur, tu ne m'oublieras pas. Seulement, tu devrais, avant de partir, engager nos fiançailles avec ta mère. Promets-lui que je l'assisterai dans son ménage et qu'elle n'aura qu'à dormir tout le jour afin de mieux écouter, pendant la nuit, les fadaises de Monsieur Ambroise. » Fine parlait avec tant de souci, en caressant son fardeau sur les joues, qu'elle ne sentit point des mains rapaces s'insinuer sous son corsage. Tout à coup, elle crut qu'une bête lui mordait le sein. Elle se redressa d'une épouvante. « Mais c'est toi qui me tracasses, brigand ! Tu fais le loup, je crois !»« Je veux le faire !»« Non, non, restons nigauds longtemps, afin de nous aimer davantage par la privation de nos fantaisies. Allons, rentre !» C'est bête. Qui, moi? Notre jeunesse. Tant que ta mère n'aura pas proclamé nos fiançailles, tu n'obtiendras rien de Fine. Ils rentrèrent, un peu chauds et las d'avoir tant joué. Adrien jura qu'au printemps, tout Montpezat saurait que la veuve Radel les accordait ensemble. Fine, pour ne point l'effaroucher, se garda d'exiger une date plus prochaine. Ne possédant rien au monde que sa vie, elle devait se soumettre aux volontés d'un héritier cossu. Chez les Morac, la misère noire croissait. Calice avait emprunté sur les jeunes bœufs, vendu les oies. Les maraudes de Rennes, que la couturière de Montpezat avait chassées à cause des racontars d'une galanterie, d'ailleurs mensongée, ne suffisaient pas à nourrir la maison du lundi au dimanche. Les malheureux, grelottant de froid, vivaient de longues journées de torture à ne rien faire. Ils se disputaient à la moindre parole, se reprochaient leur pitance. Fine, dans une telle détresse, songeait passionnément au moulin douillet de la veuve Radel. Enfin, la veille du départ d'Adrien, Marthe, conformément aux usages du Quercy, voulut offrir un cierge à la chapelle de Dorgues. Finette tint à l'accompagner. Adrien dut, au contraire, rester à l'Espigne. Car le voyageur, pour lequel étaient prononcés les vœux de réussite, ne devait aucunement regarder l'autel, contrarié par sa présence jalouse, le sein de Montpezat. Donc, ce dimanche, les deux femmes partirent de très bonne heure afin d'assister à la messe. La chapelle de Dorgues, bâtie sur les propriétés de M. le comte Maurice, lui appartient. Adossée à son flanc, une grange, ancienne bergerie, pourrie presque d'abandon. Un cimetière, sur le reste de l'enclos, se développe. Ceux de la famille noble y dorment, ainsi que leurs serviteurs fidèles. Les pierres tombales blêmissaient parmi les cailloux, des cyprès lugubres et des haies d'aubépines gémissaient au vent du matin. Fine et Marthe s'engagèrent dans la chapelle, sur les dalles disjointes. Personne n'était encore rendu. Frances, coiffée jusqu'au cou d'un bonnet de laine blanc, arrivait par la sacristie. Il fit un signe de croix et pousseta délicatement de ses mains balourdes les tapisseries de l'autel. La chapelle s'offre assez vaste entre des murs crevassés datant de plusieurs siècles dont chacun a fourni, avec le bénitier, des tableaux, des ex-voto, des croix de bois naïvement sculptées, son art, sa douleur et son culte. L'exhaussement de la toiture, l'addition d'un mur destiné, à droite de la porte, à séparer des gens du Quercy les cheminots de bonne volonté, ont détruit la noble simplicité de la chapelle. Autrefois, les poules de la grangette y venaient, pendant la semaine, prendre le frais. Des chaises au hasard sont dispersées et des bancs poisseux. Une barrière, dont la vétusté embellit les enluminures de cuivre, circule le long du chœur, entre deux piliers, sous chacun desquels deux tombeaux de marbre éraillés s'étalent. Deux fenêtres hautes projettent la clarté de leurs carreaux verts et rouges sur l'autel. C'est à Saint-Maurice, le patron des Valdez, que Marthe et Fine vont offrir leur cierge. Au fond de la chapelle, Frances, avec de grands coups de tête à droite et à gauche, tire la corde à nœuds. Et, tout là-haut, la cloche sonne et cabriole dans l'air, dans la lumière, par les campagnes ranimées. « Viens, Fine !» ordonna Marthe. « Tu n'as rien à demander, toi, à Saint-Maurice ?» Fine, avec des yeux éperdus, regarde la veuve Radel. Sa pensée, comme la cloche là-haut, lui sonne par tout le corps son désir des fiançailles. Mais sa poitrine se contracte de frayeur, sa bouche reste close, parce que Marthe, qui semble saisir l'arrière-pensée de la faraude, l'observe avec un visage froid. « Non, répond Fine, je n'ai rien à réclamer. Pardi, tu es trop jeune. Je suis venue pour Adrien, voilà tout. Que Saint-Maurice lui donne tout le bonheur dont il dispose. Tu as raison, à Montratier, il en trouvera plus qu'à l'Espine. » Fine, à ces mots, tremble, pâlit de désolation, de colère. Mais elle est pauvre, elle n'a pour sa défense que les ressources du mensonge, de la ruse. Elle obéit. Les deux femmes, leur cierge entre les doigts, s'avancent vers la statue qui est peinte de bleu et de rose. Fine, en arrière, laisse toute la dignité de l'offrande à la mère d'Adrien. Elles s'agenouillent en prière et leurs lèvres, précipitamment remuées, soulèvent un bruit pareil à celui de la pluie dans les landes. Marthe retrousse sa robe de futaine et, gravissant les marches de l'autel, pose le cierge debout, l'appuie entre deux branches d'un candélabre, comme une gaule entre les dents d'une fourche, au coin de la cheminée. Fine imite lentement ce geste d'offrande, se prête à toutes les prévenances, afin que Marthe, bientôt, ne soit pas étonnée de ses aveux. Une dernière fois, elles se mettent à genoux, puis s'en retournent. Là-haut, dans sa ceinture de jardin, de bosquet, le château de Valdez, sous un manteau d'azur, apparaît tout blanc, égayé de soleil, tandis que, de toutes parts, les ombres noires accourent. La pluie va recommencer. La pluie, un dimanche, c'est mauvais signe. Des femmes bavardent avec la femme Radel. Finette, sans les comprendre, écoute, se tait obstinément. C'est qu'elle lutte dans elle-même contre un désir de songer aux vendanges dernières et de se remémorer les illusions de richesse qui, un moment, à son âge de femme si nouvelle, l'avait grisée. Oui, le château, de là-bas, semble l'appeler, jeter sur elle un reflet de sa joie et de son bien-être. Les mots caressants, la pression de main de M. Maurice lui reviennent. Un froid lui aiguillonne le cœur. Elle contemple béatement la solitude de ce divin patrimoine auquel une pauvresse ne peut penser sans la permission de son maître. Et, de dépit, dans ce sentiment de son impuissance et de sa trop profonde humilité, elle détourne la tête. Et, s'écartant dans le fossé de la route, elle ramasse des feuilles, des brindilles sèches, qu'elle brise fébrilement sur son genou. Tout son être est remué d'angoisse, comme un buisson par un âpre vent d'automne. Triste, elle réfléchit. Une force incessante voulait lui faire regarder le château. « Fine, tu rêves trop !» lui dit Marthe. « Ça te fera mal. Viens, rentrons !» Fine, docilement, suivit la mère d'Adrien, qui, sur la route, lui disait encore « Tu n'aurais pas pleuré, par hasard ?»« Non !» Pourquoi, d'ailleurs, à cause du départ d'Adrien ? Oh, je pense qu'il ne nous oubliera pas, mon ratier. Que t'importe à toi qu'il oublie? Moi, c'est vrai, mon Dieu, je ne suis qu'une pastoure. » Marthe cheminait d'un pas raide en retroussant sa robe à cause de la poussière. Fine, qui sentait son orgueil, se tut, craintive, plus brune, dans la mélancolie qui lui échauffait le sang. À mesure qu'on approchait du village, Marthe hâtait le pas. Elle parlait beaucoup, toute seule, faisant avec contentement les demandes et les réponses. Fine s'étonnait de la voir si peu émue du départ de son fils. Plus les deux femmes approchaient de l'Espigne, plus Fine tremblait d'appréhension. Maintenant, elle ne souhaitait pas que la veuve Radel devinât son désir de proclamer les fiançailles. Car la veuve s'y opposait, Fine le sentait trop bien. Et à cause du père Maurac, qui ne supportait pas trop d'orgueil chez l'ami d'Ambroise, on aurait eu tout de suite des querelles et des batailles qui eussent à jamais compromis les espérances des pharaons. Calice, justement, était, avec Adrien, assis sur le banc de pierre de sa maison. Adrien aperçut, le premier, les deux femmes, au bas du chemin, près de la porte à claire-voie. Il comprit, aux yeux sournois, méchants, de Fine, qu'elle n'avait rien avoué de leur projet à sa mère. Pâle, il baissa la tête. Oserait-il lui-même, avant son départ, ne fût-ce que pour tranquilliser la pastoure si douce à son esprit et à ses lèvres, exprimer dans sa maison les vœux auxquels, après tout, il avait droit, de par sa condition d'héritier légitime et de par son âge? Marthe ne s'arrêta point chez les Maurac. L'odeur de leur misère lui répugnait. Adrien, qui l'aimait et qui, à son insu, la craignait davantage, courut à son aide. Ils sortirent les vaches et la volaille. Fine, bientôt, s'insinua vers le moulin pour guetter son pharaon entre les arbres. L'ayant aperçu, elle mit sa bouche entre ses mains comme dans un cornet et, d'une voix contenue, souffla « Digo, Digo, Adrien !» Celui-ci, que la pensée de Fine accompagnait sans cesse, la rejoignit d'un élan. Seuls, enfin, ils s'assirent au grand jour sur le bord d'un pâturage. Comme Adrien déjà la taquinait, elle éclata brusquement en sanglots et, prévoyant qu'il la gronderait de sa faiblesse auprès de Marthe, elle le gronda lui-même. « Tu n'es pas un homme, tu ne me fais pas valoir, ta mère ne peut pas te refuser nos fiançailles. »« Ah, je croyais, moi, que tu te confesserais la première. Une fille a plus de courage. »« C'est que tu me trompes, Adrien. Tu abuses de moi parce que tu ne connais pas notre faraude. À Montratier, quand une famille connaîtra ton moulin, tes terres et tes bêtes, elle s'emparera de toi. » « Tu m'offenses, Fine, c'est moi qui me suis emparée de ta personne si légère, puisque tu n'as pas un bien au soleil, et c'est moi qui t'emporterai. »« Où ? Dans mon cœur. Ah, Dieu veuille que tu me dises là des paroles honnêtes. »« Oui, Fine, je te jure que je ne t'oublierai jamais, et que, dès mon retour, quand je serai plus hardie de mes bras et de ma volonté, nous nous fiancerons, avec ou sans le consentement de ma mère, au printemps prochain. » En es-tu sûr? Bien sûr? Oui. Adrien pressa Fine contre lui avec effusion et, souriant de tendresse, murmura « Dis-moi, si je te fais entendre le loup dans un bois, est-ce qu'on pourra nous séparer ensuite ?»« Non, brigand, tu ne t'en dirais plus de moi. » Fine riait, espiègle, un peu troublée. Puis, ainsi que tout enfant, elle frémit de peur à la vision du loup et se laissa caresser par son pharaon qui la protégeait. Mais Adrien était saisi d'une sorte de vertige, une fièvre le brûlait, et elle aussi, qui se croyait plus sage. Fine, dans la chaleur de l'étreinte, oubliait la misère de sa maison, les terres et le moulin de la veuve Radel. Il ne restait plus qu'Adrien dans sa pensée, de même que contre son corps. Elle n'eût pas été fâchée, peut-être, qu'un passant, où la veuve Radel la surprit entre les bras heureux de son pharaon. Les accordailles eussent sonné toutes seules, comme les heures au clocher. Tout à coup, un pas s'éveilla dans le chemin délaissé. Fine, furtivement, leva la tête, sans qu'Adrien eût la moindre émotion que leur solitude était violée. C'était la veuve, cueillant des salades, non loin du ruisseau. Elle aperçut les pharaons embrassés. Elle se dressa d'un mouvement instinctif de colère. Le silence frissonnait du murmure des branches, de l'écho même des voix lointaines qui riaient au village. Le ruisseau, entre les pierres, chantait avec innocence. Fine, éperdue, regardait Marthe. Celle-ci, après réflexion d'une seconde, s'était apaisée. Haussant les épaules avec dédain, elle se pencha de nouveau pour cueillir les salades en cheminant vers sa maison. Fine murmura « Ta mère !»« Oh, elle nous a vus ?»« Parbleu ! Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Rien ! Laisse-moi, puisqu'elle n'a rien dit, puisqu'elle ne s'est pas fâchée, c'est qu'elle me méprise. »« Mais moi, je ne te méprise pas, bigre !»« Toi, tu n'es pas le maître, il faut que je me garde. Laisse-moi !»« Voilà !» fit Adrien en dénouant ses bras. « Je t'obéis plus qu'à ma mère. » Ils se séparèrent, non sans peine, en échangeant des baisers qu'ils s'envoyaient du bout des lèvres. Fine demeura seule sur le gazon, vaguement inquiète. Le lendemain, à l'heure du départ, elle craignit de monter au moulin. Elle attendit son phareau au seuil de sa terre, contre la porte à claire-voie. Il ne tarda guère. Elle le vit paraître sous les arbres du ruisseau, un paquet de hardes pendu à l'épaule, un bâton en main. « Bonjour, Fine, salua-t-il. Alors, tu te porteras bien ?»« Oui, à toi surtout, bonne santé et bon courage. Travaille, mange et, à l'occasion, amuse-toi beaucoup. Rien ne vaut pour se faire du cœur que de fortifier solidement ses muscles. Et toi, tu sais, ne t'éloigne guère de l'espigne. » Qu'un pharo, soit des pauvres, soit des riches, ne te raconte pas, pour mieux te coucher comme une pierre, que je t'oublie à mon ratier. » Ils s'embrassèrent longuement, tendrement, avec une telle douleur qu'ils se mirent à pleurer, à gémir. Puis il monta vite à Montpezat pour y prendre la grande route. Les journées, pour Fine, passèrent lentement, dans la peine du souvenir et de l'espérance.